Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Veuillez jeter un coup d'œil avec moi dans Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. Nous continuons notre étude des versets 18 à 26. Matthieu 9, du verset 18 au verset 26. Et nous avons intitulé cette section « Le pouvoir de Jésus sur la mort ». Rien n'est plus merveilleux pour nous que de savoir que Christ a vaincu la mort. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est venu pour détruire celui qui avait le pouvoir sur la mort, et par conséquent, pour libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Hébreux 2, verset 15. En d'autres termes, l'auteur dit que les hommes vivent leur vie entière étant sous l'esclavage de la peur de la mort. Mais Christ est venu pour les délivrer de cette peur. La mort est le spectre qui hante la vie de chaque personne. Plus vous vivez, plus inévitable elle devient dans l'avenir. Savoir que Christ l'a vaincu est la joie ultime. La plupart des gens n'ont pas cette connaissance et vivent dans la peur de la mort. Je suppose que de toute ma vie, l'homme qui paraissait avoir plus de charisme, l'homme qui à travers tout le spectre de style de vie et de la religion du monde, à travers la démonstration de popularité, des médias et de toutes ces choses, l'homme qui se distingue comme l'homme, du moins, de mon vivant, dont le monde pensait avoir plus de charisme, était Mahatma Gandhi. Il paraissait être en paix. Il paraissait jouir de la tranquillité absolue de l'âme. Il semblait ne rien savoir de la peur. 15 ans avant la mort de Gandhi, il écrivait ceci. Je dois vous dire en toute humilité que selon la connaissance que j'ai de cette religion, l'hindouisme satisfait entièrement mon âme. Il remplit mon être entier. Et je trouve une consolation dans la Bhagavad des Upanishads qui manque même dans le sermon sur la montagne. Totalement en paix, totalement confortable avec son hindouisme. Peu de temps avant sa mort, il écrivit ceci. Mes jours sont comptés. Je ne pense pas pouvoir vivre très longtemps, peut-être un an ou un peu plus. Pour la première fois en 50 ans, je me retrouve dans le marais du désespoir. À noter, c'était intéressant. Il doit avoir lu Le Voyage du Pèlerin. Puis il dit ceci. Tout ce qui me concerne est ténébreux, et je prie désespérément pour la lumière. Même Mahatma Gandhi, qui semblait avoir tout le charisme, vit cela se déliter lorsqu'il commença à faire face à l'inévitabilité de la mort. Les gens commettent des idioties lorsqu'ils pensent à la mort, à cause de la peur. J'ai lu l'histoire d'un horloger turc qui avait pris la décision de se construire une tombe spéciale, avec une fenêtre de 20 cm au-dessus, et il planifia d'installer un bouton à pression électrique, une alarme à l'intérieur de la tombe, parce que s'il arrivait qu'il soit enterré vivant par erreur, il pouvait appuyer sur le bouton et alerter la salle de garde du cimetière. Il avait aussi planifié d'avoir une ampoule électrique à l'intérieur, et il donna des instructions aux personnes qui l'enterreraient de laisser l'ampoule allumée pendant 7 jours. Après les 7 jours, il devait revenir, et s'il était vraiment mort, il pouvait alors l'éteindre. Au Brésil, un architecte a conçu un cimetière gratte-ciel de 39 étages. Il y a beaucoup de gratte-ciel au Brésil. La plupart d'entre eux ont des personnes qui vivent à l'intérieur. Mais celui-ci aura la capacité d'accueillir 147 000 corps. Il y a un héliport pour permettre un transport rapide des corps. Il y aura 2 églises, 21 chapelles et des lits confortables pour les amis en deuil. Il y aura aussi de la musique reposante et sobre en fond sonore 24 heures sur 24. Ceci pour pallier au grand problème d'enterrement dans les zones très peuplées du Brésil. Savez-vous que la Grande-Bretagne est le premier pays du monde où il y a plus d'incinération que d'enterrement? Ils font face au problème de manque d'espace pour enterrer les morts. Au Japon, les tombes sont tellement surpeuplées que vous ne pouvez pas être assuré ou avoir la garantie d'obtenir une tombe que si vous faites partie de la famille impériale. La Russie a le plus grand cimetière du monde. Elle a un cimetière qui contient 500 000 corps. Ils viennent de construire un mausolée à San Diego. Dans ce seul mausolée, ils ont de la place pour 70 000 corps. Ils ont un jardin du côté adjacent, et dans ce jardin se trouve une réplique de la tombe du jardin de Jérusalem, où ils croient que Jésus serait ressuscité. Et cette réplique sera tout le long du mausolée, elle sera vide, et la porte restera toujours ouverte, pour que vous soyez visuellement informés que la tombe de Jésus est vide. Et le message insinue que ces autres tombes, dans lesquelles reposent ceux qui le connaissent, seront aussi vides un jour. Néanmoins, la terre est variolée de tombes. Elles descendent, elles montent, elles sont partout. La mort s'annonce à l'horizon de la vie de chaque individu. Que c'est merveilleux de réaliser que Jésus est venu pour vaincre la mort. Si vous jetez un coup d'œil dans Jean, chapitre 5, cela serait peut-être le meilleur endroit pour se focaliser dessus, bien que nous pouvons parler de plusieurs passages. Écoutez seulement plusieurs versets tirés de Jean 5, verset 21. « En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. » Verset 24. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Verset 26. « En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Au chapitre 11, il dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » En d'autres termes, Jésus affirmait avoir le pouvoir sur la mort. Il dit, « Le Père a le pouvoir sur la mort, et il m'a donné le pouvoir sur la mort. » Il a aussi dit, « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » Or, l'œuvre du Messie était de vaincre la mort, d'ôter la peur de la mort. Comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, le Messie devait venir pour ôter l'aiguillon de la mort, pour extraire la victoire de la tombe. En fin de compte, le Messie établira un état éternel, nous dit Apocalypse 21, verset 4, où il n'y aura plus de mort. Le Messie vaincra la mort. Si c'est vrai, alors toute personne qui affirme être le Messie devrait démontrer son pouvoir sur la mort, n'est-ce pas? Regardez avec moi Matthieu 11 au verset 5. Jean-Baptiste se posait la question de savoir si Jésus était vraiment le Messie, le fils de David, celui qui avait été promis. Et ainsi Jean envoya quelques-uns de ses disciples pour s'enquérir. Et au verset 3 de Matthieu 11, les disciples vinrent et demandèrent, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu le Messie? Es-tu celui qui avait été promis? Es-tu celui que Jean a annoncé ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et qu'est-ce que c'est? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Les morts font quoi? Les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les titres de compétences messianiques. C'est ainsi que nous savons qu'il est le roi. Matthieu aimerait que nous le comprenions. C'est pourquoi au chapitre 8 et 9, Matthieu présente le pouvoir miraculeux du Messie. Il nous montre que Jésus avait le pouvoir sur la maladie au chapitre 8, les versets 1 à 17. Il nous a montré qu'il avait le pouvoir sur les désordres, physiques, spirituels et moraux, au chapitre 8, du verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 17. Et maintenant, au chapitre 9, des versets 18 à 35. Il nous montre qu'il a le pouvoir sur la mort, la maladie, le désordre et la mort. Il peut donner la vue aux aveugles. Il peut donner l'ouïe aux sourds. Il peut faire parler les muets. Et il peut ressusciter les morts. Et c'est là que se trouvent les titres de compétence du Messie. Il peut faire, en guise d'aperçu, ce qu'il fera dans son royaume et à travers l'éternité. Nous nous focalisons maintenant dans notre texte, commençant au verset 18, sur son pouvoir sur la mort. Le dernier ennemi, et il y a trois miracles ici. Le premier est la résurrection d'une fille morte. Le deuxième, c'est qu'il donne la vue aux yeux aveugles. Et le troisième, il donne une voix à un muet. Dans un certain sens, ils illustrent tous son pouvoir sur la mort. Dans un cas, il donne la voix à une voix morte. Dans un autre, il donne la vue aux yeux morts. Et ce faisant, non seulement il peut ressusciter les parties du corps de la mort, mais aussi le corps entier de la mort en ressuscitant cette petite fille de la mort. Or, comme nous l'avons dit, il y a de cela deux semaines, lorsque nous avons commencé notre étude des versets 18 à 26, nous ne voulons pas seulement nous focaliser sur le miracle de la résurrection, mais nous voulons regarder Jésus, parce que nous allons apprendre maintenant comment il opérait avec les gens. Nous ne voyons pas seulement les facteurs inclus dans son pouvoir en tant que Dieu manifesté, mais nous voyons aussi la tendresse de son œuvre avec les gens, et cela devient de plus en plus clair en parcourant le passage. Faisons brièvement maintenant le point sur la façon dont Jésus traitait les gens. Et c'est le plan que nous voulons suivre. Tout d'abord, Jésus était accessible. Verset 18. Regardez comment il commence. Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Arrêtez-vous là. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avions soulevé le fait que Jésus était occupé dans une conversation avec les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste. Partout où il allait, il y avait une foule de gens qui l'entouraient. Toujours au milieu d'une foule, toujours entouré de gens. Nous voyons ceci tout au long du livre de Matthieu. Vous commencez au chapitre 4, par exemple, au verset 25, il est écrit « De grandes foules le suivirent ». Et vous pouvez parcourir jusqu'au chapitre 12, verset 15, « Une grande foule le suivit ». Et vous pouvez aller jusqu'au chapitre 19, et seulement le deuxième verset, il est écrit « De grandes foules le suivirent ». Et au chapitre 20, verset 29, « Une grande foule suivit Jésus ». Et au chapitre 21, verset 8, « Une grande foule le suivit ». En d'autres termes, sa vie entière était accessible aux gens, posant des questions, subvenant aux besoins, prêchant, enseignant, guérissant, chassant les démons. C'est un principe merveilleux, les amis. Dieu est accessible, il est là. Il peut être trouvé, il peut être cherché. Il n'est pas le Dieu des païens. Il n'est pas le Dieu que ses adeptes ne peuvent trouver, et le Dieu des gens de l'Ancien Testament, à qui le prophète avait dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu ». Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Notre Dieu n'est pas ainsi. Quand Jésus vint dans le monde, il était Dieu incarné. Dieu devint accessible. Deuxièmement, il n'était pas seulement accessible, il était disponible. Et nous passons de la foule à l'individu au verset 18. Il est écrit « Un chef arriva, un homme de la foule, et plus loin au verset 20. C'est alors qu'une femme, de toute une masse de personnes, la focalisation est faite sur un homme et une femme, un individu. Il n'est pas seulement accessible, c'est-à-dire que vous pouvez participer à ses réunions. Il est disponible. Vous pouvez le confronter individuellement, et vous pouvez entrer dans sa vie, et lui dans la vôtre. Il est venu vers des gens, des individus. Il toucha un lépreux. Il alla à la maison avec un centenier qui avait un serviteur paralysé. Il toucha une femme atteinte de fièvre et eut affaire à un démoniaque. Il guérit un paralytique. Et ici, il rencontre un père ayant une fille mourante et une femme avec une hémorragie grave. Je veux dire qu'il est toujours disponible à l'individu. Et il y a deux choses que cette disponibilité inclut. L'une d'elles, c'est le besoin et l'autre, c'est la foi. Chaque fois qu'il y a un besoin profond, partout où il y a une grande foi, il est disponible. Regardez le verset 18. Il dit « Un chef arriva ». Et les autres évangiles nous disent qu'il était le chef de la synagogue. Il était un homme modèle de l'institution religieuse. Il était certainement le citoyen de premier plan, l'homme le plus respecté, honoré et religieux. Il faisait partie de l'institution qui s'opposait généralement à Christ. Et pourtant, dans un désespoir absolu, parce que sa fille était morte, il vint à Jésus. À son arrivée, sa fille était mourante. Mais lorsque Matthieu commence à relater l'histoire, sa fille est déjà morte. Et le monsieur est désespéré. Et il vient avec un besoin profond. Mais il fait aussi montre d'une grande foi, puisqu'au verset 18 il dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Ça, c'est une grande foi. Une grande foi. Il avait un besoin profond et une grande foi. Et là se trouve le terrain requis pour la rencontre d'une âme avec Dieu. Remarquez le milieu du verset 18. Il l'adora. Il adora. Cet homme avait la foi pour être sauvé. L'adoration est l'un des mots préférés de Matthieu. Ce pourrait être une fausse adoration. C'est possible. Au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, verset 26, je pense que c'est une fausse adoration. Rappelez-vous que Jésus racontait une histoire à propos d'un homme qui était tellement endetté qu'il ne pouvait pas payer ses dettes. Il vint et adora le maître et il dit « Oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je rembourserai tout. » Et l'homme lui pardonna, et cet homme se tourna ensuite vers un homme qui avait une petite dette envers lui, une toute petite, et le jeta en prison parce qu'il ne pouvait pas rembourser. Cet homme était un arnaqueur, c'était un hypocrite. Au verset 26, le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Et cette adoration était fausse. Ainsi, l'adoration peut être simulée, elle peut être externe, elle peut être égoïste. Nous retrouvons une adoration égoïste dans Matthieu 20, au verset 20. avec la mère de Jacques et Jean. Jacques et Jean voulaient s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus dans le royaume, et ils voulaient être élevés au-dessus de tous les autres disciples. Et ils envoyèrent donc leur mère, et elle vint à Jésus. Et il est écrit qu'elle vint se prosternant pour lui faire une demande. Or, ceci était une adoration intéressée. L'adoration peut être fausse ou intéressée, mais elle peut être aussi réelle et authentique, et je crois que lorsque cet homme vint, il vint avec une authenticité de cœur. Si vous deviez regarder, par exemple, dans Matthieu 14, au verset 33, je pense que vous verriez une adoration authentique. Jésus avait marché sur les eaux, et lorsqu'il entra dans la barque, il est écrit que ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Maintenant, il y a la chose réelle, la vraie adoration. Vous le voyez au chapitre 15, n'est-ce pas? Chapitre 15, au verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme, cananéenne, qui venait de cette région, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Il était sur le point de donner une illustration dramatique ici. Et les disciples dirent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Il leur montrait combien c'était important, tout d'abord dans son ministère, avant d'aller chez les païens, d'aller d'abord chez les Juifs et de leur offrir le royaume. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Et je pense que son adoration est réelle et authentique. Et d'une certaine façon, le fait de l'avoir ignoré met en exergue l'authenticité de sa foi. Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ai-je une quelconque obligation vis-à-vis de toi, une païenne ?»« Oui, Seigneur, dit-elle. Que veux-tu dire par là? Tu as raison. Je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Il y a ici un esprit de douceur. Je ne mérite rien. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Ça, c'est une vraie adoration. » Désintéressée. Elle savait qu'elle ne méritait rien d'autre que des miettes. Ainsi, l'adoration peut être fausse, intéressée, ou elle peut être authentique. Et retournez maintenant dans Matthieu 9, et je pense que ce que vous verrez ici est une vraie adoration. Il se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Il le croyait vraiment. Et au chapitre 8, souvenez-vous que le centenier dit au verset 8 « Mon serviteur est malade, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus avait dit qu'il n'avait jamais vu une aussi grande foi en Israël. Mais cet homme n'avait fait que croire que Jésus pouvait guérir. Cet homme croit qu'il peut ressusciter les morts. Il devait certainement croire qu'il était le Christ. En fait, cette foi est plus grande que celle des disciples à plusieurs occasions. Le saviez-vous? Au chapitre 8, les vagues se heurtaient contre la barque. Au verset 27, il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Il leur a demandé encore et encore, chapitre 14, verset 31, chapitre 16, verset 8. Il dit « Hommes de peu de foi, hommes de peu de foi !» Chapitre 6, verset 30, « Hommes de peu de foi !» Si les disciples qui croyaient avaient peu de foi, alors que cet homme avait ce type de foi, il devait avoir dépassé l'étape où sa foi était adéquate pour la rédemption. Je crois que cet homme avait vraiment la foi. Il avait un besoin profond. Il était désespéré. Il avait une grande foi et Jésus répond à la grande foi. Verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Les autres évangiles ajoutent « ainsi que toute la foule ». Il y a donc une énorme foule qui se forme sur les ruelles pendant qu'ils vont chez cet homme. Jésus était accessible et il était disponible. Il s'écarte de la foule pour suivre ce seul homme qui avait un besoin profond. Troisièmement, j'aime ceci. Jésus pouvait être touché. On pouvait le toucher. La foule avait entendu. L'individu l'avait adoré. Et maintenant, nous voyons une femme qui le touche au verset 20. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et littéralement saisit ou attrapa le bout pendant de son vêtement. Elle avait souffert jusque-là d'une perte de sang. C'était une sorte d'hémorragie. Un problème de saignement spécifique aux femmes, probablement causé par une tumeur due à un fibrome. Cela aurait pu être un carcinome, mais si cela avait été le cas, cette femme n'aurait pas survécu 12 ans. D'après la loi lévitique, lorsqu'une femme saignait, lorsqu'elle avait ce type de problème, ses vêtements étaient souillés, Le lit sur lequel elle dormait était impur. Tout ce sur quoi elle s'asseyait devenait impur, et tout ce qu'elle touchait devenait impur. Elle était exclue de la synagogue, de la famille, répudiée du mariage. Pendant 12 ans, elle avait été ostracisée, considérée comme impure, une condition désespérée. Bannie de la famille, bannie des amis, de la communion, de la synagogue. Personne ne pouvait la toucher et rester pure. Mais elle avait entendu parler de Jésus, et elle avait aussi un besoin désespéré, et elle avait aussi la foi. Et elle se disait continuellement, au verset 21, et le grec dit qu'elle se disait « Si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Cet homme a tellement de puissance que si seulement je réussis à le toucher. » Et un juif avait 4 petites franges qui pendaient d'une partie de sa robe. Elles étaient bleues. Et selon Nombre 15 et Deutéronome 22, elles symbolisaient l'identification à la loi de Dieu. Et elles marquaient l'identité du juif. Et pendant que Jésus marchait dans la foule, cette frange se balançait devant et derrière sur son dos. Elle se faufila et l'attrapa et s'accrocha. Que se passa-t-il au verset 22? Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Il répondit à cela. Il pouvait être touché. Il était sensible et réactif. Vous savez qu'en Sir James Simpson, un grand saint, était mourant. Un ami voulant le réconforter lui a dit, « « Bien, James, bientôt tu pourras te reposer dans le sein de Jésus. » En toute humilité, il répondit ceci. « Bien, je ne sais pas si je peux vraiment le faire, mais je pense que je peux attraper son vêtement. » Cette femme ne voulait pas être exposée dans son embarras et sa honte, et elle voulait seulement s'approcher et toucher. Mais elle avait assez de foi pour croire que c'est tout ce qui était nécessaire, étant donné qu'il y avait tellement de puissance. Le chef avait une foi quelque peu inadéquate. Elle était un peu entachée de superstition, mais Jésus les a pris au niveau où ils se trouvaient et les a rachetés tous les deux. Maintenant, regardez un instant, quand la fin du verset 21 dit qu'elle croyait qu'elle pouvait le toucher, et Jésus se retourna. Il se passa quelque chose que Matthieu ne rapporte pas, mais Luc, si, et je veux que vous le voyez dans Luc au chapitre 8. Il y a beaucoup de réciprocité que les autres évangiles révèlent et que nous ne pourrons pas couvrir, mais je veux au moins vous montrer ceci. Le verset 44 de Luc dit « Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement, ou s'assécha, prit fin. Elle fut instantanément guérie. J'aime ceci. Et Jésus demanda « Qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis « Qui m'a touché ?» Tu veux rire, j'espère. Tu es pressé, bousculé. Et poussé sur la route, et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus savait la différence entre la bousculade d'une foule inconstante et l'étreinte d'une âme fidèle. « Qui m'a touché ?» Et j'aime ceci au verset 46. Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Affirmation incroyable. Savez-vous ce que cela me dit ? Jésus était un canal d'accomplissement de la volonté de Dieu, au point que le Père pouvait guérir par lui avant même qu'il sache qui était concerné. En disant « Je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé », il le pensait, il avait senti la puissance le quitter. Il pouvait être touché, tellement sensible à celui qui le touchait. Il connaissait la différence entre celui qui se cognait à lui, un curieux, et celui qui le cherchait sincèrement, et qui s'approchait avec désespoir et foi. Il connaît le cœur auquel se connecter. Il sait qui sortir de la foule pour lui dire « C'est toi ». Laissez-moi vous conduire à une quatrième pensée. Non seulement il était accessible, disponible, touchable, mais il était aussi impartial. Il était impartial. Lorsqu'il se retourna pour repérer cette femme, il fit preuve de tellement d'impartialité. Il aurait pu dire « Écoute, femme, veux-tu laisser mon vêtement ? J'essaie d'aller vers le chef. Comme l'a dit quelqu'un, ne tire pas mon vêtement. J'essaie de, je dois, écoute. » Si nous pouvons convertir cet homme, écoute, cet homme dirige la synagogue. Je veux dire, nous pouvons tenir un réveil dans cette ville. Enfin, laisse tomber, je dois poursuivre ma route. C'est une affaire très, très sérieuse. Non, voyez-vous, Dieu n'a jamais cherché les superstars et les projecteurs et les personnes célèbres. Il s'est toujours contenté de personnes comme nous. La Bible dit que le prophète Ésaïe avait prédit que lorsque le Messie viendrait, il prêcherait l'évangile à qui ? Aux pauvres. Et Paul dit, « Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde. Je veux dire que nous sommes un peuple ordinaire, le savez-vous, vraiment. Je lisais un livre très intéressant cette semaine, dont le titre est « Merveilleusement créé » du docteur Paul Brand et Phil Yancey. C'est un livre que vous devriez lire, magnifique. Dans une de ses sections, il dit comment le peuple de Dieu est tellement invraisemblable, et il cite le romancier Frédéric Büchner, qui disait « Qui aurait pu prédire que Dieu ne choisirait pas Ésaü, honnête et fiable, mais plutôt Jacob, l'escroc, l'évinceur ? Qui aurait pu prédire que Dieu choisirait Noé, un soulard, ou Moïse, qui devint un fugitif en Madian, pour avoir tué un homme en Égypte ? Et n'eût été pour l'honneur, il aurait pu envoyer Aaron gérer la situation. Qui aurait pu prédire que Dieu choisirait les prophètes qui étaient déguenillés, aussi fous que les chapeliers pour la plupart ? Et ensuite, Paul Brand ajoute « Cette exception semble confirmer la règle. Les premiers humains que Dieu créa firent exactement ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. L'homme que Dieu se choisit pour coiffer une nouvelle nation connue comme le peuple de Dieu essaya de mettre sa femme en gage auprès de Pharaon. Et la femme elle-même, lorsqu'il lui fut dit à 91 ans que Dieu était prêt à lui donner le fils qu'il avait promis, éclata de rire. Rahab, la prostituée, devint révérée pour sa grande foi. Et Salomon, le plus sage des hommes, à avoir vécu, s'écarta du chemin en violant tous les proverbes qu'il avait si judicieusement écrits. Ce modèle continua même après Jésus. Les deux disciples, qui avaient le plus propagé la parole après le départ de Jésus, Jean et Pierre, furent les deux à être réprimandés pour avoir répandu la confusion. Et l'apôtre Paul, auteur de plus d'épîtres que tout le reste, fut choisi pour la tâche, alors qu'il allait de ville en ville, cherchant des chrétiens à torturer. Il était difficile pour Jésus de confier les grands idéaux d'amour, d'unité et de communion à ce groupe. Pas étonnant que des personnes cyniques aient regardé l'Église et dit « Si ce groupe de personnes est censé représenter Dieu, je me hâterai de voter contre lui. » Ou, comme l'avait exprimé Nietzsche, « Il faudrait que ses disciples aient l'air plus sauvés pour que je croie en leur sauveur. » Nous sommes une équipe diversifiée, n'est-ce pas ? L'ignoble, le faible et l'insensé. Nous avons tous ceci en commun. Nous avons un sentiment d'un besoin désespéré, et nous avons la foi pour croire. Jésus est donc impartial. L'apôtre dit que, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ interrompit toute autre chose pour s'occuper de la femme ostracisée. Et il ne s'occupe pas d'elle à distance. Écoutez ce qu'il lui dit. Verset 22 de Matthieu 9. « Ma fille. »« Fille ? Attendez une minute. Mais c'est très intime, ça. C'est très personnel. C'est familier. C'est très tendre. C'est très chaleureux. Très affectif. Fille. Ceci la rapproche. Prends courage. Sois réconfortée, ma fille. Quelle tendresse. Quelle impartialité. Puis il ajoute ceci que j'aime. Ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'instant même. Mais, une minute, elle a déjà été guérie. Et c'est en plus de ce fait. Elle était guérie dès la minute où elle l'avait touchée. Mais quand il la repère, il dit « Il y a autre chose. Ta guérison n'a rien à voir avec ta foi, pas vraiment. C'était un acte de la souveraineté de Dieu. Si vous étudiez les évangiles et les récits de Christ, vous trouverez des multitudes et des multitudes de personnes qui furent guéries et rien n'est dit sur leur croyance. La petite fille qui ressuscitait des morts avait-elle la foi ? Je crains que non. Que dira-t-on du serviteur paralysé du centenier qui fut guéri ? Avait-il la foi ? Non. En fait, vous pouvez parcourir les évangiles et vous trouverez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où les gens étaient guéris et aucune mention de leur foi n'est faite. La guérison était un acte de la souveraineté de Dieu, pendant que Jésus démontrait sa déité. Et la guérison reste un acte souverain de la part de Dieu. Mais en plus de la guérison physique, il dit « ta foi t'a ». Et il n'a pas utilisé le mot « ianomai », qui signifie « guérir physiquement ». Il a utilisé le mot « sozo », qui signifie « être sauvé » dans le Nouveau Testament. « Ta foi t'a sauvé », et elle fut sauvée dès cet instant. Oui, dans un sens, elle était sauvée des horreurs de cette infirmité. Mais il y a aussi une question de rédemption ici. Elle était sauvée. Il y avait plus que la guérison physique. Lisez Marc 10. Je veux voir si je peux vous le démontrer. Marc 10, verset 46. Et nous allons voir cette affaire ensemble. Dans Marc 10, au verset 46, il est écrit « Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule. Un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il l'identifia par son titre messianique. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. « Tais-toi, Bartimée !» Mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» C'était le cri de sa foi. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a !» Et il utilise le mot « sozo », sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre qui ? Jésus, sur le chemin. Je pense que dans ce cas, le mot « sozo » est utilisé pour indiquer que l'homme n'était pas seulement guéri, mais il avait aussi reçu le salut. Il y avait un élément du salut, son âme, s'il avait ce type de foi. C'était suffisant pour sauver son âme s'il croyait qu'il était le Seigneur et qu'il était le fils de David. Regardez Luc au chapitre 7 et au verset 44, grand récit, émouvant. Et j'aimerais vous montrer que c'est un parallèle très important. Luc, chapitre 7, verset 44. Où il y a une femme. Le verset 44 dit « Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Écoutez, cette femme avait démontré tellement d'amour, tellement de révérence et de respect pour Christ, que cela fut suffisant pour produire sa rédemption, et lui accorda le pardon. Et pendant le repas, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Qui peut faire ça ?» Mais il dit à la femme, « Remarquez la même chose que lors des guérisons dont nous avons déjà parlé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Ici, il n'y a pas de guérison. Il n'y a que le pardon des péchés. Et cette expression, avec le mot grec « sozo », est utilisée pour parler de son salut. C'est la raison pour laquelle je dis que nous devons voir cet aspect lorsque le mot « sozo » est utilisé. Souvenez-vous de l'histoire de Luc 17. 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Au verset 14 de Luc 17. « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Observez maintenant. 10 vinrent, 10 furent envoyés, 10 furent purifiés. C'est catharizo. Catharizo qui veut dire être lavé, être purifié. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta, même expression, foi, ta. » Et il utilise le mot « sozo », sauvé. C'est une chose que d'être catharizo. C'est une autre que d'être sozo, le voyez-vous ? Il y a la purification de 10. Il y a le salut d'un seul. Ainsi donc, quand le mot est utilisé pour parler du salut, c'est triste que toutes les versions ne fassent pas toujours la distinction, parce que je pense qu'il y a une connotation de rédemption. Comme je l'ai déjà dit, la foi n'est pas seulement pour la guérison. Savez-vous qu'il y a des malades qui guérissent alors qu'ils ne sont pas chrétiens? Et il y a des chrétiens qui meurent. C'est une chose souveraine. Quelquefois, Dieu honore notre foi en matière de guérison, mais il honore toujours notre foi pour le salut. Bien. Comme vous pouvez le voir, Jésus aimait les gens. Il était accessible. Maintenant, vous pouvez retourner dans Matthieu 9. Il était accessible. Il pouvait être touché. Il était impartial. Une petite femme, ostracisée, était aussi importante à ses yeux qu'un dirigeant de la synagogue. Que Dieu nous délivre du jeu des sièges coûteux, vous savez, et de l'indifférence vis-à-vis des nécessiteux. Dans le livre « Une nuit mémorable », Walter Lord parle du naufrage du Titanic en 1912, je pense au mois d'avril. Et quand il parut dans The American, qui est le journal de New York, La une disait « Le millionnaire John Jacob Astor noyé ». D'autres personnes s'étaient aussi noyées, mais c'est la vision du monde. La presse ne parle que des riches et des célèbres. Ce n'est pas pareil avec Christ. Si vous apprenez une chose de ce sermon, vous n'apprenez pas seulement combien il est puissant, mais vous apprenez aussi qu'il est accessible, disponible, touchable et impartial. Voilà comment ça marche avec Dieu. Et ce doit être pareil pour ceux qui le représentent. Je veux finir avec ceci. Cinquièmement, il était puissant. Il était puissant. Il était puissant. Nous pouvons être les quatre premiers, mais ça commence à coincer ici. Je peux sympathiser avec vous et tendre ma main pour tenir la vôtre. Mais si vous êtes malade, je ne peux pas vous guérir. Et si vous êtes mort, je ne peux pas vous ressusciter. Voilà ce qui le distingue. J'aime le verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, l'interlude a été si long que la petite fille est décédée. Il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Maintenant, une minute. Il s'agit ici de la mort d'une petite fille. C'est quoi tout ce brouhaha? Êtes-vous jamais allé dans une maison de deuil? Une personne est décédée. C'est tellement calme. Les gens marchent en murmurant, portent des costumes noirs, sont très calmes. Vous vous glissez dans les petites salles, les petites chambres de petits cercueils, de petites orgues qui jouent, très calmes. Si quelqu'un fait tomber un objet, vous le savez immédiatement. Notre culture exige un calme. Dans leur culture, on fait beaucoup de bruit. Le vacarme partout. Les gens font beaucoup de bruit. Maintenant, que je vous dise ce qui se passait. Il se passait trois choses basiques lors des funérailles juives. En passant, la fille est morte. Il y a assez longtemps déjà pour que les funérailles commencent. Donc, ils savaient qu'elle était très malade et ils étaient déjà prêts à agir. Alors, les pleureurs professionnels étaient déjà entrés en scène. Il y avait des crieurs professionnels. Ils pleuraient, criaient, se lamentaient et tout le reste. Mais permettez-moi de vous dire trois choses qui faisaient partie de la cérémonie. Tout d'abord, ils déchiraient leurs vêtements. Vous étiez censé déchirer vos vêtements. Cet acte symbolisait votre douleur. Et il y avait 39 règles différentes pour déchirer son vêtement selon le Talmud. Vous deviez le faire en position debout. Vous deviez le faire au niveau du cœur ou près du cœur. Si vous étiez la mère ou le père, vous deviez le faire exactement au niveau du cœur. Si vous n'étiez pas le parent, vous pouviez le faire n'importe où, près du cœur. Et il fallait faire une déchirure suffisamment grosse pour pouvoir y mettre votre poing. Et vous deviez laisser cette déchirure pendant 7 jours. Et pour les 30 jours suivants, vous pouviez recoudre grossièrement, mais pas d'une façon permanente, pour que les gens sachent que vous aviez toujours de la peine. Et pour éviter que des femmes exposent leur nudité en déchirant leurs vêtements, elles déchiraient le sous-vêtement et le portaient ensuite à l'envers. Et il y avait 39 choses différentes. Et c'est ici que tout commence. Tout le monde est occupé à déchirer son vêtement. Croyez-moi. Cela aurait été un grand deuil, parce que cet homme était très influent. Et ils se sont tous occupés à déchirer leurs vêtements. La deuxième chose était les lamentations. Et des femmes professionnelles venaient et commençaient à pleurer. Elles devaient être payées, et elles devaient avoir appris toute l'histoire domestique de cette famille. Ainsi, en pleurant, elles mentionnaient le nom de tous ceux qui étaient déjà morts dans cette famille, ressuscitant les souvenirs longtemps enterrés. « Oh, souvenez-vous d'Alice. Oh, souvenez-vous de Charlie. » Et ainsi de suite. Elle réveillerait tout, pleurerait, écrirait et causerait tout ce vacarme, essayant de toucher chaque corde sensible qu'elle pouvait, en évoquant chaque personne déjà morte. La troisième chose, comme vous le remarquerez au verset 23, c'était les musiciens, les joueurs de flûte. Ils avaient tous des types de flûtes différents, mais ils venaient et jouaient. Le Talmud dit ceci. Le mari a l'obligation d'enterrer son épouse décédée et de se lamenter le matin, pour elle, conformément à la coutume de tous les pays. Et le plus pauvre des Israélites recrutera un minimum de 2 flûtes et d'une femme pleureuse. Même si vous viviez dans la pauvreté la plus abjecte, vous deviez recruter une femme pleureuse et 2 joueurs de flûte. Maintenant, si vous étiez riche, le Talmud prescrivait que ce soit fait à la hauteur de votre richesse. Voici donc un homme qui était probablement très aisé, et sa maison est remplie de joueurs de flûte. Et vous pouvez donc imaginer le désordre, les déchirures de vêtements, les cris, les lamentations, et les gens jouant de la flûte un peu partout. En fait, cette pratique existait aussi chez les Romains, et ils disaient, et Sénèque a écrit, qu'il y avait tellement de joueurs de flûte qui jouaient et tellement de cris à la mort de l'empereur Claude, qu'ils eurent l'impression que Claude lui-même les entendait, bien que mort. Vous pouvez donc vous imaginer à quoi ressemblaient les funérailles à cette époque. Jésus vit les musiciens et ceux qui faisaient tout ce bruit. Observez le verset 24. Il leur dit « Retirez-vous, sortez, le prince de paix arrive. » Il dit « Retirez-vous ». Pourquoi ? C'est convenable pourtant. Le Talmud le prescrit. Nous faisons ce que nous devons faire. Retirez-vous. La raison ? La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Que veux-tu dire ? Lisez la fin du verset 24. Il se moquait de lui. Qu'est-ce qu'il raconte ? La fille n'est pas morte. Ne sait-il donc pas ? Bien sûr qu'il sait qu'elle est morte. Elle a déjà été déclarée morte, et il sait qu'il va la ressusciter de la mort. Il sait pertinemment qu'elle est morte, mais il dit « Vous ne pouvez pas considérer sa mort comme mort. Vous devez la considérer comme le sommeil, parce qu'elle est temporaire. » Voyez-vous, voilà ce qu'il leur dit. Vous devez considérer qu'elle s'est juste endormie, et l'implication est « parce que je vais la ressusciter ». Et voilà pourquoi ils se moquèrent. Ils se moquèrent en disant « Il va la réveiller ». Ce qui attire votre attention sur le fait qu'ils étaient payés, n'est-ce pas ? Si leurs pleurs pouvaient si rapidement se changer en rire, ils pouvaient pleurer cet enfant et l'instant d'après se moquer de Jésus. Ils se moquèrent donc de lui. En fait, le verbe « utiliser » signifie qu'ils rirent à se tordre les côtes. Ils rirent vraiment comme le rire moqueur d'un supérieur qui se rit d'un stupide. En passant, ce verbe n'est utilisé que dans cette histoire. Et il est utilisé 3 fois dans cette histoire. C'est un rire moqueur, réservé à un insensé. Seul un insensé peut penser pouvoir la ressusciter. Pourtant, ils avaient vu d'autres miracles, voyez-vous, cette foule de Capernaum. Mais ils ne crurent toujours pas, exactement ce que Jésus avait dit. S'ils ne croient pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront même pas si quelqu'un revenait des morts. De toute façon, il dit, « Arrêtez, retirez-vous. » Et ils se moquèrent de lui. Verset 25. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille. Les autres évangiles disent, il lui dit, « Talitha cum, savez-vous ce que cela signifie ? Petite fille, lève-toi, petite fille, lève-toi. » Il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Savez-vous ce qui est ensuite dit ? Il est dit. Les parents furent saisis d'étonnement. Jésus leur dit de ne pas en parler, mais ils ne pouvaient pas résister, et ils mirent plus de pression sur lui à l'approche de ses ennemis. Luc 8, verset 55, a quelque chose d'important à ajouter à ceci. Il y est dit, « Son esprit revint en elle », ce qui signifie qu'elle était vraiment morte. Son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement. Vous savez, Jésus n'avait pas besoin de toucher la petite fille. Il n'avait pas besoin de la tenir par la main. Il aurait pu juste dire un mot. Mais c'est la façon de Dieu d'être tendre. Le comprenez-vous ? C'est la façon de Dieu d'être doux. C'est la façon de Dieu de démontrer son affection et son amour. C'est la façon du peuple de Dieu de se saluer par un saint baiser en signe d'extension de son affection pour eux. Et le verset 26 dit « Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Savez-vous ce qu'il disait de lui ? Il a le pouvoir sur les maladies. Il a le pouvoir sur les désordres. Il a le pouvoir sur la mort. Il peut racheter. » Et Matthieu atteint l'apogée dans sa présentation du pouvoir de Jésus-Christ. C'est lui qui détient les clés de l'enfer et de la mort, nous dira Jean. Grande vérité. Bien-aimés, nous n'avons aucune raison de craindre la mort, absolument aucune. Le poète le formule ainsi, j'aime bien. Les pleureurs n'ont plus besoin de pleurer, ni d'appeler les enfants déjà partis, car la mort est changée en sommeil, et chaque tombe devient un lit. En tant que jeune homme, le pasteur Moody avait subitement été invité à prêcher à des funérailles. Il décida de fouiller dans les évangiles dans le but de trouver un des sermons funèbres de Jésus. Mais sa fouille fut vaine. Il réalisa que chaque fois que Christ se rendait à des funérailles, il finissait par ressusciter le mort. Et donc, il n'avait jamais prononcé un sermon funéraire. Dès que les morts entendaient sa voix, ils revenaient immédiatement à la vie. Nous devons nous réjouir de la mort parce que nous avons vaincu la mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Il nous montrera le chemin de la vie. Dans sa présence, la plénitude de joie. À sa droite, des trésors pour toujours. Je pense que Arthur Brisbane m'a offert une belle présentation de ce à quoi ressemblent les funérailles. Il voulait le démontrer, et donc il a représenté une foule de chenilles, faisant le deuil, toutes vêtues de noir, et toutes ces chenilles rampaient en pleurant. Et elles portaient les restes d'un cocon vers sa dernière demeure. Les pauvres chenilles en détresse pleuraient. et au-dessus d'elle voltigeait ce papillon d'une beauté incroyable, les observant en toute incrédulité. Christ nous donne l'espoir. Il y a de cela 2 semaines, quand je prêchais la première partie de ce sermon, il a touché le cœur d'une personne, et elle m'a écrit cette lettre. « Cher John, ma famille et moi avons subi une perte tragique. Mon jeune frère a été fusillé et tué jeudi après-midi. Il était un récupérateur de voitures professionnelles depuis 4 ans. Il travaillait d'abord à Valley, ensuite à Los Angeles. Il venait de décider de se réinstaller à Valley, se disant que, vu son travail, Los Angeles n'était pas un lieu sûr. Depuis la semaine dernière, il travaillait à Valley et semblait plus en sécurité. Jeudi après-midi, un de ses partenaires et lui sont allés à une adresse à Burbank, une ville où notre famille vit depuis 14 ans, saisir une voiture dont le propriétaire n'avait pas honoré le paiement. Le partenaire de mon frère est allé à la porte du propriétaire du véhicule pour l'informer que la voiture serait saisie, sauf s'il voulait effectuer le paiement sur le champ. Le monsieur aurait répondu « Prenez le véhicule ». Et donc mon frère et son partenaire sont allés prendre le véhicule quand soudain cet homme est sorti de sa maison avec un fusil. Mon frère lui a immédiatement dit qu'il n'y aurait aucun problème et qu'il ne prendrait pas la voiture. Ce monsieur a tiré une fois et atteint mon frère à la poitrine et l'a tué à l'instant même. Ma famille et moi avons du mal à gérer cet incident, même si nous savons qu'il existe une raison pour laquelle Jésus l'a permis. Votre sermon, aujourd'hui, sur le pouvoir de Jésus sur la mort, est arrivé à point nommé et nous a fortement réconfortés, mes 2 sœurs, toutes 2 chrétiennes et moi. Mais c'était la première fois que nous venions à Grace aujourd'hui. Mon frère était un homme merveilleux, chaleureux, prêt à aider n'importe qui, un inconnu comme un ami dans le besoin. Il était de ceux qui pouvaient s'arrêter pour venir en aide à quelqu'un de bloqué dans son véhicule, même s'il était en route pour aller au travail. Parfois, j'ai le sentiment que tout va bien et que j'ai la paix en sachant qu'il est avec le Seigneur. Mais il y a d'autres moments où je ne pense qu'à mon frère allongé dans la rue et je donnerai tout pour qu'il revienne. Mais je sais qu'il reviendra quand Jésus ressuscitera les morts et j'ai cette joie d'espérer. Je vous remercie, vous et le Seigneur, pour ce message d'aujourd'hui et de savoir que mon frère est en paix, au nom de Jésus. C'est une grande espérance, n'est-ce pas? C'est l'unique chose qui peut soutenir, savoir qu'il a le pouvoir sur la mort. Prions. Merci, Père, pour le temps que nous avons eu ce matin et pour le ministère que tu as rendu dans ta parole. Comble tous les besoins en ce lieu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'aujourd'hui soit le jour où ils t'ouvrent leur cœur pour croire. Pour ceux qui te connaissent, qu'ils aient un engagement plus profond. Pour ceux que tu appelles à se joindre et à s'unir à ton Église, qu'ils répondent aujourd'hui, qu'ils soient obéissants. Pendant que vos têtes sont baissées, en une dernière seconde, si vous ne connaissez pas Christ, ouvrez-lui votre cœur là où vous êtes assis. Invitez-le à entrer, à vous sauver, à pardonner vos péchés, à vous manifester sa miséricorde et son salut, à vous donner la victoire sur la mort. Il le fera. Père, amène ce que tu veux pour qu'il vienne et touche chaque vie avec la grande espérance qui est la nôtre, parce que tu as le pouvoir sur la mort. Ramène-nous encore ce soir avec l'anticipation que tu vas nous parler pendant que nous allons ouvrir nos cœurs pour partager les choses que tu as accomplies ici. Merci pour ce jour et pour ce peuple. Nous te rendons toute la gloire au nom de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.